Fun for you avec Partenamut sur Fun Radio.
Et salut tout le monde, je m'appelle Simon, vous écoutez le podcast Fun for you, podcast que vous retrouvez toutes les semaines sur funradio.be, sur l'application Fun Radio BE et puis sur toutes les plateformes de podcast. Chaque semaine, je reçois un expert différent pour venir nous parler de plein de choses, de la santé, du bien-être et puis de la vie intime. Et cette semaine, dans le podcast Fun for you, c'est notre psychologue Pénélope que je retrouve. Fun Radio. Et quel plaisir de vous retrouver comme chaque semaine dans Fun for you avec aujourd'hui à mes côtés Pénélope, notre psychologue qui est avec moi. Salut Pénélope.
Salut Simon.
On s'intéresse aujourd'hui aux troubles alimentaires.
Troubles alimentaires qu'on connaît aussi sous l'abréviation TCA. En fait, c'est les troubles du comportement alimentaire.
D'accord, j'allais justement poser la question pourquoi TCA ? Eh bien, tu as répondu à la question.
Exactement, tu vois, je sens comme ça.
On est complémentaires après toutes ces années. Hein.
Exactement. Et donc, ça regroupe évidemment tout un tas de pathologies psychiatriques qui se traduisent forcément par une perturbation, en général profonde et qui persiste dans le temps, du rapport à l'alimentation. On est évidemment au-delà d'une simple préoccupation pour le poids ou pour la nourriture. Là, on est vraiment dans quelque chose qui va témoigner d'une souffrance psychique très intense et qui peut même, dans certains cas, engager le pronostic vital. Il y a trois grands troubles qu'on va distinguer. C'est l'anorexie mentale, je vais revenir dessus par la suite, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. À côté de ça, on va avoir d'autres types de troubles qui sont pas tout à fait définis, sont des formes plus atypiques, plus incomplètes. Ça rentre pas dans les classifications, mais ça reste quand même une part importante de la clinique quotidienne que peut rencontrer un médecin ou un psychologue. Alors au niveau du pourcentage, si tu veux, de TCA qu'on va retrouver au niveau de la population belge, on est environ à 5%. Et évidemment, tu t'en doutes, il y a une prédominance très importante chez les femmes. On est à peu près à 9 femmes sur 10, avec un pic d'apparition au niveau de l'adolescence et au début de l'âge adulte. Donc c'est vraiment le moment où les pathologies au niveau troubles alimentaires vont se déclarer. Plus particulièrement, l'anorexie mentale, qui présente évidemment un taux de mortalité plus important, qui est quand même estimé à 5 à 10%, et qui fait donc que c'est le trouble psychiatrique le plus létal, faut le savoir. Alors, il semblerait que depuis la pandémie Covid-19, on rapporte au niveau des services hospitaliers une augmentation assez significative des hospitalisations chez les adolescents. Alors sans doute que c'était lié à l'isolement, à l'anxiété collective, à l'intensification de l'exposition au niveau des réseaux sociaux qui ont été finalement des facteurs aggravants et qui persistent évidemment dans le temps. Donc on peut se dire quand même que les TCA c'est un enjeu au niveau de la santé publique évidemment, au niveau de toutes les conséquences que ça va avoir médicales, psychologiques et sociales. Alors pour te faire une petite remise en perspective, finalement les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire, c'est quelque chose qui est quand même assez ancien et donc on a déjà dès l'Antiquité des auteurs qui vont rapporter des jeûnes au sens de pas manger, des jeûnes qui étaient prolongés et qui étaient inexpliqués. Et au Moyen-Âge, on va aussi avoir des descriptions, en tout cas, qui évoquent ce genre de problématiques. On a même des figures comme il y a Sainte Catherine de Sienne qui pratiquait des jeûnes qui finalement mettaient déjà la vie en danger. Avant, on imaginait que c'était plutôt une ferveur religieuse. Aujourd'hui, finalement, on peut supposer que c'était déjà de l'anorexie mentale. Alors, ça va devenir finalement un objet médical au 19e siècle. La première fois qu'on va parler d'anorexie hystérique, c'était en 1873. Et alors, il y avait en tout cas dans cette dynamique quelque chose qui se portait sur l'importance des relations familiales et des dynamiques psychologiques. Progressivement, c'est quelque chose qui va se développer dans l'histoire de la psychologie. La boulimie, elle, ça va arriver plus tardivement. On va en parler autour de 1979 seulement. Et donc, on va le distinguer aussi par rapport à des crises alimentaires qui sont suivi de comportements compensatoires. Donc, dans la boulimie, bon, tu le sais peut-être, mais les gens vont en général avoir ce qu'on appelle du binge eating, donc ils vont manger des très très grandes quantités, mais en général, ils vont compenser derrière, soit avec un excès de sport, soit avec des vomissements, soit avec des laxatifs, par exemple. Mais j'y reviendrai aussi plus tard. Et donc, c'est quelque chose qui va se décrire progressivement. On va parler d'hyperphagie boulimique. Et ça, c'est quelque chose qui est reconnu officiellement depuis 2013.
Alors, tu en parlais, il existe différents troubles alimentaires. Je propose qu'on s'intéresse dans un premier temps à l'anorexie mentale.
Alors c'est sans doute le trouble alimentaire qui est le plus connu et surtout le plus impressionnant. Donc dans le cadre de l'anorexie, on a une restriction volontaire et sévère au niveau des apports alimentaires. Donc évidemment, la personne ne mange pas, si je simplifie un peu. Donc on sait que c'est des gens qui vont avoir une peur intense de grossir. Et en plus, il y a une distorsion qui va se faire au niveau de l'image corporelle. Donc c'est des gens qui se voient plus gros qu'ils ne le sont réellement. Ouais. Et donc ils vont vraiment contenir l'alimentation un maximum, mais vraiment jusqu'à l'extrême. On a de toute façon là des personnes qui sont en général très amaigries. Hein, tu peux voir les genoux de manière très importante, tu comptes les côtes sans devoir aller les toucher, etc. Alors on a évidemment deux types d'anorexie. On a la forme restrictive, donc là on a vraiment une perte de poids qui va être obtenue uniquement avec le fait de ne pas manger et en mettant en place de l'hyperactivité, donc par exemple plus de sport. Et puis on a une anorexie qui va utiliser ce qu'on appelle des crises ou des purges. Et donc là, on va avoir des alternances entre des moments de restriction très importants et des épisodes qui vont être des épisodes de boulimie. Bon, je parlerai de la boulimie après. Mais donc, on va manger beaucoup et on va faire suivre de vomissements, de prises de laxatifs. Et donc là, il y a une alternance entre les deux phases. Des moments, on mange pas du tout. Des moments, on mange beaucoup. Mais par contre, on fait en sorte de se purger. Alors, évidemment, il y a beaucoup de risques au niveau de l'anorexie. En tout cas, des facteurs de risque qui existe, ça va être par exemple une prédisposition génétique, semblerait-il. Ça, c'est quelque chose qui semble plus nouveau. Moi, j'avais moins notion de ça. On constate par exemple des anomalies au niveau neurobiologique et plus particulièrement au niveau des systèmes de la sérotonine et de la dopamine qui sont des hormones qui sont dans ton cerveau. Je ne ferai pas un cours sur la sérotonine et la dopamine. Voilà, c'est trop complexe et c'est pas mon job. Alors, psychologiquement, on va trouver des profils plutôt perfectionnistes. Des gens qui ont un grand besoin de contrôle, qui ont une intolérance au niveau de l'incertitude et une estime de soi qui est en général assez fragile. Au niveau familial, on va retrouver aussi des contextes où il y a beaucoup d'exigences, éventuellement de la surprotection, où il y a une communication qui est assez pauvre. C'est des choses qu'on retrouve régulièrement. Alors évidemment, c'est pas pour ça qu'il faut ça pour être anorexique, mais en général, on va retrouver plus ce type de profil ou ce type de contexte familial dans le cadre de l'anorexie. Alors on peut aussi avoir des pressions au niveau socioculturel qui sont plus importantes. On sait qu'on est dans une société, alors ça change aujourd'hui, mais bon, moi quand j'étais jeune, les mannequins, c'était Kate Moss par exemple, c'était des mannequins qui étaient extrêmement maigres, et donc finalement être beau c'était être très maigre, et c'était comme ça qu'on réussissait. Alors de nouveau, je trouve qu'aujourd'hui, on assouplit un petit peu ça. Hein. On pense aux pubs Dove, par exemple, qui montrent des femmes normales, avec éventuellement même les petites choses qui existent chez les femmes, de la cellulite, par exemple, ça arrive. Donc voilà, je trouve que ça change, mais l'anorexie reste quand même encore fort présente. Les conséquences, évidemment, c'est que puisqu'il y a une dénutrition très importante, on va avoir une fonte musculaire très importante aussi, éventuellement de l'ostéoporose qui arrive chez des très jeunes femmes.
C'est quoi ça exactement ?
L'ostéoporose, c'est ce qu'on va développer en général en étant vieille, où il y a un affaiblissement du squelette. En général, c'est quelque chose qui se déclenche au moment de la ménopause. Donc ici, on va avoir ça chez des jeunes filles qui ont parfois 20 ans. Tous les troubles hormonaux, évidemment, arrivent. Hein. On va avoir ce qu'on appelle l'aménorrhée, donc le fait d'avoir une absence de règles, de l'infertilité qui va se provoquer, forcément, puisque si tu n'es pas réglé, il y a le cycle naturel n'est pas maintenu, les troubles digestifs évidemment, et le risque le plus important, c'est des risques au niveau cardiaque, puisqu'il y a quelque chose qui fait fonctionner le corps, ça s'appelle du potassium, enfin il ne fait pas fonctionner que le cœur, il fait fonctionner les muscles. Et le cœur est un muscle. Et donc, on peut avoir des complications vraiment au niveau cardiaque. Alors, au niveau, évidemment, psychologique, on constate chez ces patients qu'elles sont vraiment dans une rigidité cognitive, qu'il y a de l'anxiété, éventuellement de la dépression. Et ça, ça va aggraver, évidemment, le risque suicidaire. On pourrait déjà considérer que l'anorexie en elle-même est déjà un acte suicidaire, même si c'est un acte suicidaire lent. Bien sûr, ce sont des gens qui vont s'isoler, qui vont avoir des conflits très importants au niveau familial, qui vont être centrés sur quoi ? Sur l'alimentation. Donc c'est vrai que pour ce genre de patient, c'est quand même très important d'avoir une prise en charge qui va être pluridisciplinaire. Et donc là, on va associer un suivi médical. Moi, je sais quand j'ai ce genre de patiente, il est hors de question que je les suive en tant que psychologue seule. Je veux absolument qu'il y ait un médecin qui soit là, entre autres pour prévenir tout ce qui va être soit de la dénutrition très importante, importante, voire pour réintroduire l'alimentation de manière appropriée. Parce que si tout d'un coup, la personne reprend l'alimentation, je sais pas, et mange des frites tous les jours, ça va pas bien se passer non plus. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement aussi nutritionnel, qu'une diététicienne soit présente. Et évidemment, il y a le travail psychothérapeutique qui est fondamental. Je trouve quand même que dans l'anorexie, et plus particulièrement quand on est face à des adolescents, par exemple, ou de très jeunes adultes, c'est important de mettre en place une thérapie familiale. On sait qu'il peut y avoir une implication, que le symptôme peut devenir aussi une manière de contrôler la famille. Ça peut devenir même un chantage dans une certaine mesure de la personne qui souffre d'anorexie par rapport aux proches de la famille, par exemple. On va éventuellement aussi utiliser la thérapie cognitivo-comportementale, dont j'ai déjà régulièrement parlé, qui va permettre de modifier aussi les pensées dysfonctionnelles. Par exemple, je suis gros alors qu'on ne l'est pas, et de modifier aussi tout ce qui va être comportement de contrôle. Et puis, on peut aller vers des approches qu'on dit psychodynamiques, donc plus psychanalytiques, qui vont permettre aussi d'explorer un petit peu les enjeux qui vont être présents au niveau identitaire et au niveau relationnel chez la personne. On sait que les traitements médicamenteux, dans ce cadre-là, n'ont quasi pas d'efficacité, mais parfois, on va prescrire des antidépresseurs s'il y a une dépression qui est associée aux troubles alimentaires.
Autre trouble alimentaire sur lequel on va s'arrêter, c'est la boulimie.
Alors oui, la boulimie, c'est un trouble finalement qu'on voit beaucoup moins facilement. Comme je disais, l'anorexie, tu le vois parce que le poids est très faible, donc physiquement, c'est quelque chose qui est très évident. Alors que dans la boulimie, en général, on a des patients qui ont la plupart du temps un poids relativement normal. Donc comment ça se passe? Là, on va être face à des épisodes qui vont revenir de manière régulière de crise alimentaire. Et donc, ils vont ingérer de manière rapide et massive une énorme quantité de nourriture là où on est face vraiment à quelque chose de l'ordre de la perte de contrôle. Donc, je disais tout à l'heure, l'anorexie, on est plutôt dans l'ultra-contrôle, c'est-à-dire je vais manger une pomme, un yaourt sur toute ma journée. Ici, c'est la perte de contrôle totale dans le moment de la crise. Et puis, on va suivre ça avec des comportements qui vont compenser la prise alimentaire. Et donc, des vomissements qu'on provoque évidemment, des abus de laxatifs et de l'exercice physique qui peut être très excessif. On peut même voir que certains aliments sont des aliments déclencheurs de crise. Donc moi, j'avais une patiente qui disait la glace, par exemple, on sait qu'il faut le manger en fin de crise parce que c'est ça qui va permettre de provoquer le vomissement derrière. Les risques qu'on va avoir dans la boulimie, c'est des risques qui peuvent être biologiques parce qu'on va avoir des dérèglements qui vont se faire au niveau du corps. On a aussi de l'impulsivité. Au niveau psychologique, on va avoir une faible estime de soi, de l'hypersensibilité au niveau du rejet. En général, il y a des traumatismes qui existent antérieurs. Au niveau familial, évidemment, on va avoir un climat qui va devenir conflictuel, des critiques au niveau du poids, parce que parfois, il peut y avoir chez les boulimiques comme ça, une tendance à grossir un petit peu, puis remaigrissent derrière. Et donc, il peut y avoir des critiques à ce niveau-là. Et puis, en plus, au niveau, tu peux imaginer qu'au niveau financier, c'est un puits sans fond. Et alors, on peut aussi avoir, là de nouveau, au niveau socioculturel, une pression au niveau esthétique, puisque ce sont quand même des personnes qui à la base veulent être minces, mais qui ont trouvé un moyen pour rester minces et manger en même temps de très grandes quantités et en général des aliments qui sont assez genre des kilos de pâtes par exemple. Alors on va voir que lorsque les patients vont préparer une crise, ou en tout cas quand la crise va arriver, ils vont décrire une tension intérieure qui est très importante et qui va ne faire qu'augmenter. Et donc la crise vient combler ça. Et puis, il y a un soulagement qui est vraiment immédiat au moment de l'ingestion de l'alimentation. Puis, il y a une culpabilité qui arrive derrière intense. Et donc là, il va y avoir la purge derrière qui va permettre là de se revider, qui va remettre un certain apaisement chez le patient. Et donc, ce cycle, évidemment, va entretenir le trouble et va progressivement aggraver la souffrance. On peut en arriver quand même à des situations. Moi, j'avais une patiente, elle faisait 5 crises par jour qui duraient en moyenne 2 heures. Ça te donne une idée.
C'est impressionnant, voilà. Ouais.
Surtout si tu rajoutes, évidemment, un peu de sommeil quelque part, ben, en fait, finalement, tu es en crise tout le temps. Donc, les conséquences qu'on va avoir, c'est par exemple, une érosion au niveau de l'émail dentaire. Parce que quand il y a des vomissements, il y a beaucoup d'acidité. Et qui dit acidité dit que ça attaque l'émail des dents. Comme il peut y avoir un reflux au niveau gastro-œsophagien, tu vois, parce que, ben, de nouveau, comme il y a des vomissements, il y a de l'acidité. On peut avoir une hypertrophie au niveau des glandes salivaires, des troubles digestifs, évidemment, qui vont être présents. Et au niveau psychologique, en général, c'est associé à de la dépression, à de l'anxiété et éventuellement à des risques suicidaires. Donc il y a vraiment quelque chose qui va aussi tourner autour de la honte et du secret, puisque c'est quelque chose qui ne se voit pas d'emblée par rapport à de l'anorexie. Et donc, pour éviter que les gens s'en rendent compte, on va avoir de l'isolement qui va se mettre en place aussi. La prise en charge, en général, ici, on est aussi en priorité sur la psychothérapie. On va avoir différentes possibilités. Bah, les TCC, comme tout à l'heure, hein, puisqu'ils fonctionnent sur les mêmes systèmes. Et puis, des thérapies qui vont permettre de travailler les relations, l'affirmation de soi. On peut aussi, dans certains cas, donner certains médicaments de type antidépresseur qui peuvent avoir une efficacité sur la réduction des crises.
Et puis, un petit dernier trouble alimentaire sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui, c'est l'hyperphagie.
Alors, l'hyperphagie, ça se rapproche très fort de la boulimie. Pourquoi ? Parce qu'on a des crises alimentaires qui sont incontrôlables. Par contre, la différence, c'est qu'on n'a pas les comportements qui compensent la prise alimentaire. Et donc là, forcément, on est face à des patients qui sont en surpoids, voire même en obésité. Et ça peut être une obésité qui est très importante. Donc, les crises en général, là, elles vont survenir plutôt en dehors des repas. Parfois en cachette, évidemment. Et là, on est face à un vécu de perte de contrôle et de la honte qui va se développer, évidemment. Et donc, la nourriture, dans ce cas-là, elle est vraiment un mode de régulation émotionnelle. Par exemple, tu es face à un stress, tu manges, ça diminue le stress. T'as une angoisse, tu manges, ça diminue l'angoisse. T'es content, c'est chouette, tu manges. Et bon, voilà. En fait, tout ce qui va être lié à l'émotionnel va finalement passer par l'alimentation. Alors, je dis toujours, c'est un peu comme essayer de remplir un trou de terre avec de l'eau. Ça ne marche pas. On essaye de combler quelque chose au niveau émotionnel avec de la nourriture. Ça ne marche pas non plus. Les facteurs de risque, évidemment, qui peuvent apparaître, c'est au niveau biologique, par exemple, qui est une dérégulation au niveau de la satiété, hein, de la sensation de j'ai plus faim. Les antécédents familiaux d'obésité, par exemple. Au niveau des facteurs psychologiques, ça peut être face à une gestion émotionnelle qui va être difficile, une estime de soi qui va être basse. Et au niveau familiaux, on peut être face à des modèles alimentaires qui sont déjà déséquilibrés. On sait aussi qu'au niveau sociétal, on va avoir une stigmatisation de l'obésité, hein, et donc avoir des cycles de régime restrictifs. Et donc, on fait une restriction au niveau du régime, et puis on compense derrière, et le poids augmente, voire dépasse le poids initial. Alors, les conséquences physiques, évidemment, c'est l'obésité, comme je le disais, c'est du diabète de type 2, hein, c'est le diabète qui apparaît avec une prise de sucre plus importante, de l'hypertension, des apnées du sommeil, des complications au niveau cardiovasculaire. Et au niveau psychologique, là, comme dans les deux cas précédents, on va avoir de la dépression et de l'anxiété qui peuvent être aggravées par une stigmatisation et aussi un isolement social, puisqu'on n'a pas envie de se montrer, parce qu'on n'est pas en accord avec son corps, parce qu'on se trouve trop gros, parce qu'on se trouve moche, parce qu'en général on est là-dedans, donc autant pas se montrer. Ici aussi, la prise en charge, elle est nécessaire à la fois au niveau médical, au niveau nutritionnel et au niveau évidemment psychothérapeutique. Là aussi, on a des thérapies, les thérapies TCC fonctionnent plutôt bien, les thérapies cognitivo-comportementales, mais on peut associer ça à des thérapies plus interpersonnelles ou qui sont basées sur de la pleine conscience. Pareil que tout à l'heure aussi, on peut mettre certains médicaments en place qui peuvent réduire la fréquence des crises qui apparaissent. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui ressemble très très fort à la boulimie, sauf que le boulimique, il a trouvé un moyen de ne pas prendre de poids, là où par contre, la prise de poids est quasi impossible à éviter.
Et est-ce qu'on a des chiffres par rapport aux troubles alimentaires ?
Alors oui, j'ai pu trouver des chiffres de manière globale et de manière individuelle. Donc au niveau de la prévalence globale des troubles alimentaires dans la population générale, on est quand même à plus ou moins 5%. Au niveau de l'anorexie mentale, on considère qu'on est à plus ou moins 0,5 à 1%. Et c'est plus particulièrement chez les adolescentes. Au niveau de la boulimie, ce serait 1 à 2% de la population. Et au niveau de l'hyperphagie, 2 à 3%. Comme je te le disais, c'est les femmes qui sont le plus touchées, à hauteur de 90%. Les âges où on est le plus à risque, c'est entre 12 et 25 ans. Le taux de mortalité au niveau de l'anorexie, c'est 5 à 10%. et on a vu une augmentation d'à peu près 30% des hospitalisations dans ce cadre-là chez les adolescents post-Covid.
Si on devait conclure cette discussion, Pénélope, qu'est-ce qu'on pourrait dire ?
Mais d'abord que les troubles du comportement alimentaire, finalement, c'est quand même un enjeu majeur au niveau de la psychiatrie aujourd'hui, à la fois l'anorexie mentale, la boulimie ou l'hyperphagie, bien qu'ils soient distincts, finalement, on est face à une souffrance psychique intense dans les trois cas et à un retentissement qui va être très important au niveau de la santé, de la vie sociale et parfois avec des conséquences qui peuvent être dramatiques. On en arrive soit à des décès assez jeunes au niveau somatique, soit éventuellement des suicides qui peuvent arriver derrière. Alors les origines, ben, comme je le disais, elles peuvent être variables au niveau biologique, au niveau psychologique et au niveau contextuel. C'est vraiment important d'avoir une prise en charge qui soit pluridisciplinaire pour avoir le suivi médical, le soutien au niveau diététique et l'accompagnement psychothérapeutique. Je pense aussi que envisager d'impliquer les proches, ça peut avoir du sens, en tout cas quand on est face à des plus jeunes. C'est important aussi de reconnaître les signes de manière précoce. Donc je pense qu'il y a des moments, nos adolescents sont en train de perdre du poids un petit peu trop, et donc ça c'est peut-être important de le voir. C'est important aussi de lutter contre la stigmatisation, là je parlerai peut-être plus des personnes en obésité, et puis de développer éventuellement de la prévention. Bon là c'est de nouveau, c'est pas pour nous, mais voilà, au niveau de la société, pour essayer en tout cas d'avoir un meilleur pronostic pour ces troubles qui sont quand même extrêmement présents.
C'est aussi d'ailleurs un peu pour ça que cette émission existe. On fait
exactement
un peu de la prévention à notre manière. Merci en tout cas Pénélope pour cet échange.
Avec plaisir.
Et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Fun for You.
À très vite.
Retrouvez Fun for You avec Partenamut
en podcast sur le site et l'appli Fun Radio BE.